Jeudi, donc 27 février 2015, 2025, oui, vous êtes bien en 2025, c'est notre sixième séance consacrée à la lecture de l'Esprit des lois. Alors, la dernière fois, nous avons montré en quoi consiste la nature d'une république, plus précisément d'une démocratie. Parce qu'il y a, rappelez-vous, selon Montesquieu, deux formes de république, la démocratie, l'aristocratie. Une démocratie, c'est une république où, je cite Montesquieu, le peuple encore, c'est-à-dire en totalité, a la souveraine puissance. Et puis une aristocratie, c'est une république où la souveraine puissance, écrit-il, est entre les mains d'une partie du peuple, c'est-à-dire au fond d'une élite. Alors, examiner la nature d'un gouvernement républicain, c'est, comme on l'a vu, étudier les lois qui le constituent, qui font de lui une république. Et si je résume ce que nous avons montré de la démocratie, donc ce gouvernement où le peuple détient l'autorité souveraine, eh bien, dans la démocratie, donc, le peuple détient certes le pouvoir, mais selon Montesquieu, la démocratie n'est viable que si ce pouvoir ne s'exerce pas directement. Si le peuple est éclairé dans ses décisions par un Sénat, divisé en classes électorales, et contenu par un mécanisme de délégation du pouvoir à des magistrats. C'est ce que nous avions expliqué la fois précédente. En effet, pourquoi tout ça? Eh bien parce que, selon Montesquieu, la démocratie est exposée à un double danger. Et ce double danger tient à la nature du peuple. Parce que il est de la nature du peuple, dit-il, d'agir par passion, eh bien il est nécessaire que, d'abord, le peuple soit mobilisé politiquement, qu'il se sente concerné par les affaires de la cité, qu'il puisse exprimer ses passions d'une manière ou d'une autre. Mais il serait dangereux, en effet, que les hommes se replient sur eux-mêmes, qu'ils soient livrés seulement à des penchants individualistes. Et cette attitude, qui est assez courante dans les sociétés modernes, est le symptôme d'une démocratie en voie de corruption, pour Montesquieu. Ça, c'est le premier danger. Et puis le deuxième, eh bien, c'est qu'il est aussi dangereux que les passions du peuple commandent directement l'exercice du pouvoir. D'où la nécessité de les contenir. D'où la nécessité de guider le peuple, qui, dit Montesquieu, est incapable de se gérer lui-même, mais suffisamment perspicace pour choisir des ministres capables d'effectuer des fonctions de responsabilité. Ainsi, si je résume, un gouvernement démocratique n'est viable que s'il comporte une part d'aristocratie. C'est-à-dire que s'il confie à une élite le soin, c'est-à-dire à des magistrats, le soin d'exercer des responsabilités. Un exercice pur de la démocratie, c'est-à-dire un exercice direct de la démocratie, consisterait à sélectionner les magistrats par tirage au sort. La procédure démocratique par excellence, c'est le tirage au sort. Mais on risquerait, dans ce cas, d'avoir des magistrats incompétents. Alors c'est pourquoi il est préférable de sélectionner par une élection ces magistrats, étant entendu que l'élection est une procédure aristocratique. Parce que elle consiste à choisir ceux que l'on estime être les meilleurs. Et oui, une élection, c'est une procédure aristocratique. Donc, vous voyez que toute cette argumentation que je vous ai résumée repose sur un présupposé tout à fait discutable, qui n'est jamais d'ailleurs discuté par Montesquieu. Le peuple non seulement agit par passion, mais il est en outre ignorant, incapable d'exercer des responsabilités. Il ne peut donc pas être clairvoyant, alors qu'à l'inverse, l'élite qu'il choisit pour le guider, elle agit par raison et par prudence. Qu'est-ce qui nous le garantit ? Oui, alors, il n'est pas le seul à affirmer ce genre de choses. Vous savez, c'est vieux comme depuis Platon, c'est ainsi que l'on présente le peuple. Mais effectivement, il reprend ici tout un discours sur le peuple, le bas peuple, le petit peuple, qui est assez courant. Bon. Le problème que nous allons traiter aujourd'hui n'est pas celui de la définition d'une république, là on l'a traité, mais il est celui de savoir à quelles conditions une république peut exister et se maintenir. Et là encore, je privilégierai le cas de la démocratie, qui est, je le rappelle, la forme la plus exigeante d'une république. Alors, on a déjà commencé cette réflexion lors de la dernière séance, mais je crois qu'il faut la reprendre et la mener jusqu'au bout. Alors, on le sait, il ne suffit pas qu'un gouvernement démocratique soit constitué pour qu'il se maintienne. Une république, et a fortiori une démocratie, ne peut se conserver sans vertu. Et la vertu, c'est le principe d'une république. C'est-à-dire, c'est la passion qui seule peut donner vie à ce gouvernement en disposant les citoyens à obéir à ses lois. Et s'il n'y a pas ce principe, la République ne peut pas se maintenir. Rappelez-vous la distinction que fait Montesquieu entre la nature d'un gouvernement et le principe d'un gouvernement. La nature d'un gouvernement, c'est, dit-il, ce qui le fait être tel. C'est notamment ici ce qui le fait être une république. Et le principe d'un gouvernement, c'est ce qui le fait agir. Il se caractérise par les passions qui le font mouvoir, ce sont les termes de Montesquieu. Et ici, la passion qui fait mouvoir une république, qui est son principe, eh bien, c'est ce que Montesquieu appelle la vertu. Et la vertu, c'est aussi ce qu'on appelle l'amour des lois. La vertu, c'est l'amour des lois. Et dès lors que les citoyens d'une république, qu'ils soient gouvernés ou gouvernants, cessent d'aimer les lois, eh bien, ils ne trouvent plus motif pour leur obéir. Et alors, c'en est terminé de la république. Elle se corrompt très vite, c'est ce que nous allons comprendre. La République, et encore une fois, j'insiste surtout sur la démocratie, apparaît ainsi comme un gouvernement très fragile, puisqu'il repose essentiellement sur l'effort des citoyens. S'ils ne sont plus portés par l'amour des lois, donc par la vertu, ils ne font plus effort pour leur obéir. Et la République s'effondre. Alors, pour mieux le comprendre, il faudra aborder les deux questions suivantes dans l'ordre. D'abord, pourquoi la vertu est-elle nécessaire à une république ? Et pourquoi ne l'est-elle pas à un autre type de gouvernement comme une monarchie ? Première question. Deuxième question, quand on aura réglé la première, c'est comment peut-on produire cette passion qui est la vertu, et qui est indispensable au maintien d'une république. Alors voyons d'abord la première question. Pourquoi la vertu est-elle nécessaire à une république et plus spécialement à une démocratie? Alors, je cite une formule qu'on avait lue, hein, qui se trouve au chapitre 2 du deuxième livre de l'Esprit des lois. Je la reprends parce que toute la difficulté se trouve dans cette formule. Voilà ce que disait Montesquieu. Le peuple, dans la démocratie, est à certains égards le monarque, à certains autres, il est le sujet. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, toute la difficulté se concentre dans cette formule. Parce que le peuple est à certains égards le monarque, c'est-à-dire celui qui décide, eh bien, il peut vouloir être monarque en refusant d'admettre qu'il est également sujet. C'est-à-dire, sujet, ça veut dire tenu d'obéir aux lois qu'il s'est données. Parce qu'il a le pouvoir de décider des lois, il peut se croire au-dessus des lois et refuser qu'elles s'appliquent à lui. Vous voyez que les citoyens dans une république, plus encore plus dans une démocratie, les citoyens sont dans un double rapport à l'égard des lois. Ils en sont les auteurs, en tant qu'ils composent le peuple souverain, et c'est à ce titre qu'ils sont vraiment pleinement citoyens, au sens fort du terme. Être citoyen, c'est avoir le pouvoir. Mais ils sont également des sujets. Ils sont également des sujets, c'est-à-dire qu'ils sont assujettis aux lois, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation d'y obéir. Vous voyez, c'est ce double rapport hein, qui va faire problème. Alors ici, en effet, comment s'assurer que celui qui commande et décide des lois, donc le peuple souverain, leur obéira comme sujet? Comment s'assurer de l'obéissance des citoyens dans une démocratie? Eh bien, pour qu'ils obéissent aux lois qu'ils ont adoptées, il faut, c'est la réponse, il faut qu'ils soient capables de s'auto-contraindre à leur obéir. Et cette capacité d'auto-contrainte, c'est ce qu'on appelle la vertu. C'est ça la vertu. Et sans la vertu, l'obéissance est impossible. Vous voyez ? Puisque c'est la vertu, c'est-à-dire l'amour des lois, qui fait que les citoyens vont respecter les lois et leur obéir. Donc vous voyez que la vertu est cette passion qui permet de résoudre la difficulté. Car elle peut obtenir que celui qui est déjà monarque soit également sujet, en lui faisant aimer les lois qu'il doit respecter. Ainsi, la vertu conduit les citoyens à préférer le bien public, ou si vous voulez, l'intérêt général, à leurs intérêts particuliers, afin de faire prévaloir les lois. Alors ici, il n'est pas inutile de faire des comparaisons avec les autres types de gouvernements. Ça nous permettra de mieux comprendre encore la spécificité du gouvernement républicain. Et encore une fois, je prends surtout la démocratie. Une démocratie ne peut pas fonctionner par la seule force des lois, comme une monarchie. Vous allez voir qu'une monarchie, ça peut fonctionner de manière économique, par la seule force des lois. Eh bien, ce n'est pas le cas d'une démocratie, qui a besoin hein, de l'adhésion hein, des citoyens aux lois qui sont les siennes. Une démocratie ne peut pas non plus fonctionner par la seule violence, comme un gouvernement despotique. Et là, je vous invite je vous invite à lire le premier texte que je vous ai photocopié, page 1. C'est le début du chapitre 3 du livre 3, c'est-à-dire c'est le deuxième, sur la colonne de gauche, le début, le premier paragraphe, donc du principe de la démocratie, chapitre 3, livre 3, je lis. Il ne faut pas beaucoup de probité pour qu'un gouvernement monarchique ou un gouvernement despotique se maintienne ou se soutienne. La force des lois dans l'un, donc dans la monarchie, le bras du prince toujours levé dans l'autre, c'est-à-dire le gouvernement despotique, règle ou contienne tout. Mais dans un État populaire, c'est-à-dire dans une démocratie, il faut un ressort de plus, il faut un ressort de plus qui est la vertu. Alors, je crois qu'il est utile de commenter tout cela. Le principe qui permet à une monarchie ou à un gouvernement despotique de se conserver n'exige aucun effort des citoyens. Dans une monarchie, dans un gouvernement despotique, les citoyens n'ont pas à faire d'efforts. Alors, pour des raisons différentes, bien sûr. Le principe d'une monarchie, c'est l'honneur, qui est une passion égoïste, qui conduit à agir par ambition, par vanité, pour faire valoir ce qu'on estime être conforme à la supériorité de son rang. On tient à tenir son rang, on tient à marquer son rang, ses privilèges, dans une monarchie. Et cette passion, donc l'honneur, qui est une passion égoïste, où on cherche à se distinguer, à se faire valoir comme supérieur, eh bien cette passion peut librement s'exprimer dans le cadre des lois d'une monarchie. Le principe du gouvernement despotique, c'est la crainte. C'est la crainte qui n'exige aucun effort, bien sûr, de la part des citoyens, si on peut les appeler des citoyens. La crainte n'exige d'effort que pour le prince. Que pour le prince qui doit constamment lever son bras, hein, et menacer ses sujets. Donc, vous voyez, à l'opposé de ces deux gouvernements monarchiques et despotiques, eh bien, une démocratie, au contraire, exige tout de ses citoyens. Alors, vous me direz, oui, mais qu'en est-il de l'aristocratie ? J'y viens. L'aristocratie, c'est une des deux formes de la République, elle exige moins de vertu qu'une démocratie. Puisqu'en effet, dans une aristocratie, le peuple y est contenu, non seulement par la structure du gouvernement, puisque le pouvoir est exercé ici seulement par une élite, mais également par la force des lois qui sont édictées par cette élite et qui sont défendues par elle. Donc, on a moins besoin de vertu. Mais vous me direz, alors, il n'y a pas de différence avec la monarchie. Si, il y en a une. C'est que une aristocratie ne peut pas se passer de vertu. Dans la mesure où les élites, les aristocrates, doivent s'appliquer à eux-mêmes les lois qu'ils ont élaborées, ce qui n'est pas le cas d'une monarchie. Le monarque est au-dessus. Et cela demande, de la part de ces aristocrates, une capacité de se réprimer eux-mêmes, comme en démocratie, et cette capacité de s'auto-réprimer, c'est ce qu'on appelle la vertu. Donc vous voyez que cette comparaison entre les différents types de gouvernement, du point de vue de leurs principes, a un intérêt. Elle permet surtout de montrer, par contraste avec la démocratie, que la monarchie, notamment, et le gouvernement qui demande moins d'efforts pour les citoyens. Alors Montesquieu utilise le mot citoyen de façon très générale, hein, pour désigner tous ceux qui appartiennent à un corps politique. Hein, mais c'est vrai que nous serions tentés aujourd'hui de dire qu'on ne peut pas appliquer le mot citoyen dans une monarchie. On devrait dire plutôt sujet. Mais vous voyez pourquoi il l'utilise. Donc la monarchie, c'est vrai, c'est un gouvernement qui repose sur une loi d'économie. Elle obtient la réalisation du bien commun sans qu'il soit nécessaire de former les mœurs des citoyens en ce sens. Et là, je vous invite à lire, page 1, toujours, le texte qui se trouve à droite, bah, qui n'est pas très, très lisible vu la photocopie. C'est le texte du chapitre 5, le début du chapitre 5. Je l'ai photocopié, je vais vous lire. Le titre, c'est « Que la vertu n'est point le principe du gouvernement monarchique ». Alors, je vous le lis en partie. Hein. Dans les monarchies, la politique fait faire de grandes choses avec le moins de vertu qu'elle peut, comme dans les plus belles machines. L'art emploie aussi peu de mouvement, de force et de roue qu'il est possible. Vous vous souvenez ? Vous avez dit que Montesquieu se sert d'une analogie pour expliquer le fonctionnement des gouvernements, il les compare à des machines, hein, c'est-à-dire un agencement de pièces, où les pièces se transmettent un mouvement. Eh bien voilà, il reprend cette métaphore. Et je poursuis ma lecture, je lis plus loin. L'État subsiste indépendamment de l'amour pour la patrie, dans une monarchie. Hein. Et plus loin, je vais plus loin encore. Les lois, dit Montesquieu, y tiennent la place de toutes ces vertus dont on n'a aucun besoin. L'État vous en dispense. Une action qui se fait sans bruit y est en quelque façon sans conséquence. Fin de citation. Donc vous voyez ici que l'honneur, qui est le principe d'une monarchie, n'exige aucun sacrifice de la part des gouvernés. Il peut inspirer aux hommes de belles actions et il conduit souvent d'ailleurs à opposer une résistance aux tentations despotiques du monarque. Parce que si effectivement il n'y avait pas d'honneur, les nobles ne résisteraient pas aux tentations despotiques du monarque et la monarchie deviendrait, comme sous Louis XIV, qui transforme les nobles en courtisans, la monarchie deviendrait un gouvernement despotique. Donc, au fond, la monarchie repose essentiellement sur les nobles, sur le sens de l'honneur des nobles, voyez. En faisant agir les hommes uniquement pour la gloire de tenir leur rang, eh bien, l'honneur peut contribuer à la réalisation du bien commun sans qu'ils en aient pour autant le moindre souci. Il suffit aux hommes de s'attacher à leur propre statut, à leurs privilèges, à leur rang, pour être, comme dit Montesquieu, pour être à peu près bon citoyen. Et là, je vous invite à lire le texte qui se trouve toujours page 1, en bas à droite. C'est bien ça. Chapitre 6, dernier paragraphe. Le chapitre 6, c'est comment on supplée à la vertu dans le gouvernement monarchique. Je lis juste le dernier paragraphe. Ainsi, dans les monarchies bien réglées, tout le monde sera à peu près bon citoyen. Et on trouvera rarement quelqu'un qui soit homme de bien. Car pour être homme de bien, il faut avoir l'intention de l'être. Et aimer l'État moins pour soi que pour lui-même. Vous voyez que, en ne suivant que la seule loi de leur honneur, qui est une loi purement égoïste, hein, encore une fois. Les hommes ne cherchent pas volontairement à réaliser le bien commun, c'est-à-dire la conservation de la monarchie. Mais ils y contribuent involontairement, sans s'en rendre compte. C'est ce qu'explique Montesquieu. C'est-à-dire qu'en croyant satisfaire leur seule passion particulière, eh bien, les hommes contribuent à réaliser un autre but que le leur, qui est la conservation du gouvernement monarchique. C'est-à-dire que, vous voyez, chacun en contribuant, chacun en défendant son honneur, hein, en ne s'occupant que de son honneur, contribue avec les autres à faire fonctionner la monarchie. C'est comme ça que ça fonctionne, mais sans vouloir. Et il se trouve ainsi, comme l'explique Montesquieu au chapitre 7 du livre 3, mais là je ne vous ai pas cité le passage, il se trouve ainsi que chacun, dit Montesquieu, chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers. Je reprends la formule. Chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers. Ce que dit ici Montesquieu ressemble beaucoup à ce que le philosophe et économiste Adam Smith, qui a écrit un traité sur la richesse des nations, plus tard, dira de la main invisible du marché. Dans une monarchie bien réglée, si je reprends la formule de Montesquieu, il y a comme une loi du marché qui fonctionne malgré, d'une certaine façon, les acteurs. Hein. Mais il ne s'agit pas ici d'un marché animé par l'accumulation des richesses, il ne s'agit pas d'un marché économique, si vous voulez. Il s'agit d'un marché animé par l'honneur. Et on peut effectivement faire un parallèle entre les deux types d'argumentation, mais qui ne se situent pas sur le même terrain. En quelque sorte, Montesquieu ne fait qu'exprimer, en termes de passion politique, ce qu'Adam Smith dira en termes d'économie. Ce que dit Adam Smith, je rappelle brièvement, c'est que le boulanger n'a aucunement besoin d'aimer l'État pour participer à l'équilibre du marché et à ses bienfaits. Vous voyez, il cherche son propre intérêt. Et en cherchant son propre intérêt, ben, il contribue à faire fonctionner le marché. Hein, et c'est comme ça que ça marche. Eh bien, ici, même raisonnement. En suivant la loi de son honneur, l'homme de la monarchie n'a pas besoin non plus d'aimer l'État pour participer à sa conservation. Il y contribue, involontairement, car l'honneur a des effets bénéfiques. Donc c'est la raison pour laquelle la monarchie apparaît à Montesquieu comme un gouvernement beaucoup plus viable qu'une république. Surtout, bien sûr, une démocratie. Dans les conditions qui sont devenues celles des sociétés modernes. Et nous reprendrons la question en fin de séance. C'est-à-dire que la monarchie, si vous voulez, c'est un gouvernement qui a inventé la conservation sans effort. La conservation sans effort de ses membres. Sans aucun sacrifice de leurs intérêts personnels. Sans cette autorépression des passions que l'on appelle la vertu. Vous voyez, c'est pour ça que réfléchir sur la monarchie, c'est intéressant, et ça a beaucoup d'importance pour Montesquieu, c'est le type même de gouvernement qui se conserve sans que les citoyens aient à s'y investir, en quelque sorte, spécifiquement, pour le conserver, contrairement à une république et surtout à une démocratie. Alors, bien sûr, cela n'est possible dans une monarchie que parce que la monarchie exclut les citoyens de toute participation au pouvoir. Ça va sans dire. Ou pour le dire d'une autre façon, la monarchie élimine la question du peuple. Elle élimine la question du peuple. Le peuple, ici, en tant que souverain, qui décide des lois. Et qui doit faire preuve de vertu pour y obéir et pour conserver la République. Oui. Reste maintenant la question de savoir comment les hommes peuvent devenir vertueux et comment ils peuvent le demeurer. Comment ils peuvent devenir vertueux, c'est-à-dire comment ils peuvent devenir capables d'obéir aux lois qu'ils ont décidé d'adopter. Mais avant d'aborder ce point, je reprendrai les remarques que j'avais faites au sujet du terme de vertu lors de la dernière séance, afin d'éviter tout malentendu et toute confusion. Je crois que c'est nécessaire de reprendre ce point. Comme le précise Montesquieu dans l'avertissement qui a été ajouté à l'édition posthume de l'Esprit des lois de 1757, après sa mort, la vertu, c'est la vertu civique, hein, qu'il ne faut pas confondre avec la vertu morale ou la vertu chrétienne. Je cite un petit extrait de cet avertissement, je ne voulais pas photocopier. Hein. Ce que j'appelle la vertu dans la République, dit Montesquieu, est l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité. Je reprends cette formule très importante. Ce que j'appelle la vertu dans la République, c'est l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité. Et je vous avais dit que pour Montesquieu, les expressions « amour des lois », « amour de la patrie », « amour de l'égalité » sont équivalentes. Elles sont équivalentes. Aimer sa patrie, quand on est républicain, hein, aimer sa patrie, c'est aimer les lois de son pays. C'est-à-dire l'égalité de statut et de traitement que leur application implique pour tous les citoyens qui en font partie. Enfin, ça se tient, vous voyez. Pour illustration, puisqu'on on va demander de débattre sur la question qu'est-ce qu'être français, eh bien, on peut répondre avec Montesquieu que être français, être citoyen français, c'est être citoyen par l'existence de lois communes qui s'appliquent également à tous, sans préférence pour les uns au détriment des autres. Et non pas, on n'est pas citoyen parce qu'on est membre d'une ethnie, parce qu'on est français de souche, parce qu'on peut faire valoir une origine qui remonte à 3 générations. Ça n'a strictement aucun rapport. Ou alors, ce n'est pas une définition républicaine. Alors, je rappelais aussi la dernière fois que l'on préfère souvent utiliser le terme de civisme pour éviter celui de vertu qui paraît désuet. Mais je vous avais dit que c'est un peu malheureux parce que le terme de vertu a un sens très important. La vertu, c'est une passion. Et ne pas utiliser le terme de vertu, c'est perdre la dimension affective qui caractérise la vertu. Hein, la vertu, je répète, c'est l'amour des lois. C'est un amour, c'est une forme d'amour qui explique qu'on soit dévoué à sa patrie. C'est ça, l'idée. Et en tant que passion, c'est une force capable de mobiliser les hommes, de les conduire à se dévouer à leur patrie. Et je vous rappelais que le mot « vertu » vient du latin, d'un mot latin qui veut dire la force, la puissance. Ou, pour un ancien, hein, un homme vertueux, c'est un homme accompli. C'est un homme qui réalise ses capacités humaines, ses virtualités humaines. Par exemple, pour un philosophe comme Aristote, lui, il n'est pas latin, mais il est grec, 4e siècle avant Jésus-Christ, grand philosophe de référence dans l'éthique à Nicomaque, eh bien, la vertu d'un homme, c'est l'excellence dont il fait preuve dans l'accomplissement de ses qualités humaines. Vous voyez, c'est un homme accompli, c'est un homme hein, qui se réalise, si vous voulez, l'homme vertueux. Et comme je vous l'avais fait remarquer, la conception que les anciens ont de la vertu, notamment Aristote, c'est une conception aristocratique. Ce sont les meilleurs qui seuls s'accomplissent de cette manière. Et vous voyez, par exemple, pour Aristote, la vertu se définit comme une disposition acquise. On devient vertueux, bien sûr, par la pratique, par l'éducation. C'est une disposition acquise qui s'appuie sur l'intelligence et le jugement éclairé. C'est-à-dire qu'elle s'accompagne de qualités intellectuelles. Et grâce à l'exercice de ses qualités intellectuelles, eh bien, l'homme est capable de modérer ses passions, d'en faire bon usage, ne pas se laisser aller à des excès. Ni... Ça ne veut pas dire qu'il condamne les passions. Les passions ont leur place, mais il est capable de les conduire, de les modérer. Pour Montesquieu, ce n'est pas ça. Pour Montesquieu, la vertu, c'est seulement une passion, c'est seulement un sentiment. Elle n'est pas le privilège des meilleurs. Elle n'est pas le privilège des hommes les mieux éduqués, les plus instruits. Ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas une disposition aristocratique. Hein ? Et je vous avais cité ce passage qui se trouve, d'ailleurs, page 3, si vous avez la page 3. Je vous avais déjà cité ce passage, mais je reprends parce que je crois que ça vaut le coup. C'est le chapitre 2 du livre 5, c'est en haut à gauche. Et au début de ce chapitre, enfin à peu près au début, bon, allez, je dis depuis le début, la vertu dans une république est une chose très simple, c'est l'amour de la république, c'est un sentiment et non une suite de connaissances. Très important, ça. C'est un sentiment et non une suite de connaissances. Il n'y a pas besoin d'avoir des lumières pour être vertueux. Oui, c'est la passion démocratique par excellence, la vertu. Vous voyez ? C'est un sentiment, non une suite de connaissances. Le dernier homme de l'État peut avoir ce sentiment comme le premier. Et là, franchement, Montesquieu se démarque de la tradition antique quand il définit la vertu de cette manière. Alors, donc la vertu, c'est un sentiment qui n'exige pas de connaissance, de lumière. C'est un sentiment que chacun peut acquérir par l'éducation. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un sentiment inné. Hein, c'est un sentiment acquis. Il faut former les mœurs des citoyens pour qu'ils deviennent vertueux. Et c'est elle, bien sûr, qui, par son dynamisme, mobilise tous les citoyens et explique leur attachement à la République. C'est elle qui les empêche de se replier sur eux-mêmes et de devenir indifférents à son sort. Une République où les citoyens se replient sur eux-mêmes et sont indifférents au sort de la République, ce n'est plus une République. C'est une République en voie de corruption, en voie de décomposition. Alors, si vous lisez encore le même chapitre, lignes 8 à 13, alors c'est pas celui-là, c'est page 1. Page 1, reprenez la page 1. Vous prenez le chapitre 3 du livre 3, donc toujours le texte qu'on avait lu tout à l'heure, mais un autre passage, ligne 8, à partir de la ligne 8, je lis ce deuxième paragraphe. « Car il est clair que dans une monarchie où celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus des lois, on a besoin de moins de vertu que dans un gouvernement populaire, c'est-à-dire dans une démocratie, ou celui qui fait exécuter les lois sans, le verbe sentir, vous voyez, est important, sans qu'il y ait soumis lui-même et qu'il en portera le poids. » Les mots sont importants ici, vous voyez. Chaque citoyen se sent personnellement porteur des lois. Chaque citoyen se sent personnellement concerné par le sort des lois de sa République. Et chaque citoyen se sent personnellement responsable de leur maintien. Et donc, vous voyez, ici, encore une fois, il faut souligner le contraste avec la monarchie. Dans une monarchie, on est indifférent aux lois. Elles n'ont pas besoin d'être portées par les citoyens. Vous voyez ? Alors maintenant, la question, c'est comment les hommes peuvent-ils devenir vertueux ? Et comment peuvent-ils le rester ? Étant entendu que la vertu est nécessaire dans une république pour motiver les citoyens à l'obéissance. Alors c'est bien sûr le problème le plus difficile. C'est le problème le plus difficile à résoudre, car aucun homme n'est spontanément un citoyen. Aucun homme n'est spontanément un citoyen capable d'aimer et de respecter les lois d'une république. La première inclination d'un homme, c'est de veiller uniquement à ses intérêts particuliers. Il faut donc une éducation. Il faut donc une éducation pour arracher l'homme à son inclination première et le rendre capable de sacrifier ses intérêts particuliers à l'intérêt général. Ça ne va pas se faire comme ça. En d'autres termes, l'éducation doit parvenir à réaliser une véritable métamorphose de l'homme en citoyen. C'est une véritable métamorphose, c'est une transformation qu'elle va opérer. Et ici, il faut considérer le livre 4 de l'Esprit des lois qui traite de la question de l'éducation et qui montre que la question de l'éducation, eh bien, elle se pose toujours en relation avec le principe de chaque gouvernement, puisque chaque gouvernement a un principe qui lui est spécifique et ne se maintient que si ce principe effectivement est là. Eh bien, l'éducation, dans chaque type de gouvernement, va devoir, en quelque sorte, entretenir le principe nécessaire, ici, à la conservation du gouvernement. Et précisément, dans le livre 4, vous avez un chapitre, le chapitre 5, où il est question de l'éducation dans un gouvernement républicain, dans le gouvernement républicain. Et alors là, c'est le fameux texte qui est absolument illisible. Je suis désolé. Alors, remarquez, c'est pas trop grave, mais il faudrait vraiment que vous l'ayez d'une manière ou d'une autre. C'est un très beau texte, très célèbre, et qui commence comme ça. Je vous lis juste la première phrase. C'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de toute la puissance de l'éducation. C'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de toute la puissance de l'éducation. C'est la première phrase. Explication. Dans la mesure où le gouvernement républicain dépend au plus haut point de son principe, qui est la vertu, eh bien l'éducation y est indispensable. Bien plus que dans les autres gouvernements. Bien plus. Dans une monarchie. C'est ce qu'explique au livre 4 Montesquieu. Je résume. Il suffit d'apprendre à se conformer aux règles de l'honneur, aux codes de bonne conduite. Il suffit d'apprendre à tenir son rang en société. C'est ça qui compte le plus. Dans un gouvernement despotique, il n'y a pas d'éducation. L'abrutissement est de très loin préférable. D'ailleurs, je vous cite ce que dit Montesquieu à propos de l'éducation dans le gouvernement despotique. Juste une petite formule. L'extrême obéissance suppose de l'ignorance dans celui qui obéit. Et elle en suppose même dans celui qui commande. Ben oui, parce qu'il ne délibère pas, il ne réfléchit pas, il impose. Donc c'est vraiment le degré zéro, il n'y a pas besoin d'éducation. Là l'éducation, ce n'est pas là, comme dit Montesquieu, ce n'est pas là qu'elle a besoin... C'est pas là qu'on a besoin de la puissance de l'éducation, au contraire, c'est l'éducation au degré zéro. Dans une monarchie un peu plus. En fait, ce que nous dit tout simplement Montesquieu, c'est que Ne vous dites pas, une fois pour toutes, que toutes les sociétés ont besoin d'éducation. Il y a des types de gouvernements qui n'ont pas besoin d'éducation. Il y a des sociétés où, bon, ce qu'on appelle éducation, c'est un apprentissage un peu technique, c'est tout, pas plus. Pas besoin de plus. Il n'y a que dans les gouvernements républicains qu'on a vraiment besoin d'éducation, parce qu'effectivement, on a besoin que les hommes qui vont décider des lois, soit, et qui vont devoir aussi leur obéir, soit vertueux, responsables. Mais ce n'est pas nécessaire ailleurs. Alors comment maintenant élever les jeunes générations à la vertu dans une république si leurs parents et si leurs maîtres ne sont pas déjà vertueux eux-mêmes? Vous voyez que ici, vous allez avoir affaire à un cercle. Parce que pour devenir vertueux, il faudrait déjà que ceux qui m'enseignent, ceux qui m'éduquent, soient vertueux. Vous comprenez? Alors comment est-il possible de devenir vertueux si, vous voyez, les parents, les maîtres ne le sont pas? Comment des citoyens déjà corrompus pourraient-ils en effet transmettre à leurs enfants un véritable amour des lois? Et Montesquieu est tout à fait conscient qu'il y a ici un cercle. Et je cite d'ailleurs la conclusion juste du chapitre, alors là vous la devinez, je la lis. « Ce n'est point le peuple naissant qui dégénère, il ne se perd que lorsque les hommes faits, c'est-à-dire les hommes adultes, sont déjà corrompus. » Bon, alors évidemment, on peut toujours se demander si les pieuses incantations à la République, aux valeurs républicaines, ne viennent pas souvent combler un vide, un effacement de la vertu. Non, on parle d'autant plus volontiers de République qu'il n'y en a pas réellement, qu'il n'y a pas de civisme, véritablement, vous voyez. Et comment en effet prétendre élever la jeunesse à la vertu civique, c'est-à-dire à des valeurs communes, si la société qu'on leur propose comme modèle est une société où les valeurs communes n'ont absolument aucun sens, où le seul horizon de la réussite, c'est celui d'une réussite individualiste. C'est contradictoire. On ne peut pas attendre des hommes qui deviennent vertueux, qui soient épris de la République, si effectivement le seul horizon de société qu'on leur propose comme modèle pour leur réussite, c'est un horizon purement individualiste. Ça n'a pas de sens. Il faut être conséquent. Quoi qu'il en soit, le problème qu'il faut maintenant aborder, c'est celui de savoir comment l'éducation peut produire la vertu. De quelle manière peut-elle être efficace? Et comme va l'expliquer Montesquieu, la vertu, c'est une passion qu'on ne peut obtenir qu'au prix de la répression de passions égoïstes ordinaires. Alors, ici, c'est très intéressant. Le texte de Montesquieu ressemble à un texte de Freud. On va voir, vous allez voir, que Montesquieu, d'une certaine manière, parle à la manière de Freud dans ses essais sur la culture, de répression. Alors, il n'emploie pas le mot « sublimation », mais il y a une répression des passions ordinaires et une sublimation. Sublimation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au fond, que l'éducation consiste à détourner l'énergie des passions qui sont à la base sur des objets autres. C'est-à-dire, ici, par exemple, l'éducation va détourner l'énergie des passions égoïstes sur un autre objet que des objets particuliers, que les objets particuliers sur lesquels elle se porte ordinairement. Et je vous invite à lire avec moi le chapitre 2 du livre 5, page 3. page 3, livre 5, chapitre 2. Vous avez une formule, c'est dans le deuxième paragraphe, ligne 11. Et je pense que cette formule est importante. Moins, regardez bien, moins nous pouvons satisfaire nos passions particulières, plus nous nous livrons au général. Et c'est cette formule-là qui m'intéresse. Moins nous pouvons satisfaire nos passions particulières, plus nous nous livrons au général. Je commente. C'est-à-dire que moins, par exemple, nous pouvons satisfaire notre cupidité et notre ambition personnelle, et plus nous pouvons déplacer leur énergie vers un autre objet que celui qu'elles ont d'ordinaire, vers un objet général qui est l'amour de la patrie, qui est l'amour de la République. Vous voyez, vous avez déplacement de l'énergie, des passions, sur un autre objet que celui qu'elles ont au départ. Et cet objet général, c'est l'amour de la patrie, l'amour de la République. Et dans le chapitre 2 du livre 5, toujours après, enfin c'est juste après ce passage que je vous ai lu, vous allez voir que Montesquieu n'hésite pas, de manière un peu provocatrice, il n'hésite pas à comparer la démocratie à un monastère et les citoyens à des moines. Voyez, je vais lire la suite du texte, si vous voulez. Pourquoi les moines aiment-ils tant leur ordre ? On parle d'un ordre monacal. Hein. C'est justement par l'endroit qui fait qu'il leur est insupportable. Leurs règles les privent de toutes les choses sur lesquelles les passions ordinaires s'appuient. Reste donc cette passion pour la règle même qui les afflige. Plus elle est austère, c'est-à-dire plus elle retranche de leurs penchants, plus elle donne de force à ceux qu'elle leur laisse. C'est-à-dire, vous avez une transformation qui s'opère par la règle monacale, hein, en quelque sorte. Eh bien, vous voyez, dans une démocratie, les citoyens sont comme des moines qui sont contraints de renoncer à leur passion particulière, initiale, et qui finissent par aimer la règle qui leur paraissait au départ insupportable. Ils n'ont plus que ça. Vous voyez, il y a un processus de transformation qui fait qu'ils vont finir par aimer ce qu'au départ, ils ne pouvaient que détester. Vous voyez ?
Ça ne marche pas toujours.
Mais là, ça... Voilà. Ah oui, parce qu'il faut... Hein, il faut vraiment une grande austérité. Donc, vous avez un déplacement d'objet. Alors, Freud dirait, ben, c'est ça la sublimation, c'est qu'il y a inhibition d'une pulsion quant au but et déplacement de cette pulsion vers un autre but. Ben, à la limite, c'est du Freud. Alors, quelles sont les passions que doit transformer l'éducation pour produire la vertu? Il y en a deux. Alors, il y a l'avarice. Alors, l'avarice, attention au sens du mot. Au XVIIIe siècle, l'avarice, ça veut dire surtout la cupidité, l'avidité des richesses. Ça risque d'être mal compris. Il y a des mots comme ça qui risquent d'être mal compris, comme le mot médiocrité. Médiocrité, ça ne veut pas dire c'est nul. Non, médiocrité, c'est moyenne. Ce n'est pas un sens péjoratif. Vous voyez, si vous lisez ces termes-là, ne les comprenez pas dans le sens actuel. Vous voyez ? Alors, et donc, l'avarice, c'est la cupidité. Et puis, vous avez, deuxième passion, l'ambition. Et là, il faut lire attentivement le chapitre 3 du livre 5. Chapitre 3 du livre 5, c'est-à-dire, au fond, celui qui se trouve dans la colonne de gauche, page 3. Je me réfère surtout à lui. D'abord, l'éducation transforme, je vais commencer par elle, il transforme l'avarice. Donc la cupidité, et il la transforme en amour de la frugalité. Amour de la frugalité. De quelle manière? Eh bien, comme le dit ligne 19 Montesquieu, L'amour de la frugalité borne le désir d'avoir à l'attention que demande le nécessaire pour sa famille et même le superflu pour sa patrie. Modèle Sparte. Dans l'Antiquité. Et puis, si je vais plus haut, ligne 4, 8, regardez bien, vous avez aussi un passage qui va dans le même sens, ligne 4 à 8, deuxième paragraphe. L'amour de la démocratie est encore l'amour de la frugalité, chacun devant y avoir le même bonheur et les mêmes avantages, il doit goûter les mêmes plaisirs et former les mêmes espérances, chose qu'on ne peut attendre que de la frugalité générale. C'est-à-dire que la frugalité, c'est la modération des désirs et des plaisirs. Hein. On se contente, on est satisfait, mais on se contente de jouir du nécessaire. Pas besoin de luxe, surtout pas de luxe. Et, comme l'explique Montesquieu, au lieu de chercher à enrichir leur patrimoine particulier, au lieu d'entrer dans des relations de concurrence les uns avec les autres, eh bien, dans une démocratie, les citoyens préfèrent, comme il le dit, agrandir le trésor public. Ils préfèrent agrandir le trésor public. Et là, je vous invite à lire le paragraphe 6, c'est-à-dire ligne 26. J'ai souligné. Aussi, les bonnes démocraties, vous avez repéré ? Les bonnes démocraties, en établissant la frugalité domestique, ont-elles ouvert la porte aux dépenses publiques, comme on fit à Athènes et à Rome. Autrement dit, une bonne démocratie consacre l'essentiel de ses richesses aux dépenses publiques. Et pour cela, elle doit réduire la dépense privée. C'est-à-dire, elle doit imposer la frugalité domestique. C'est-à-dire, on aura, comme l'explique Montesquieu hein, dans le passage qui vient après, on aura ainsi des services publics fastueux pour la collectivité, mais il sera impossible d'accumuler des richesses, d'avoir des yachts, des hôtels particuliers, des jets, je ne sais quoi encore, hein, d'accumuler beaucoup de richesses. Dans un processus qui est un processus d'inégalité. Ça, non, c'est pas possible. Une démocratie ne peut pas exister sans amour de la frugalité, sans satisfaction des besoins les plus essentiels. Et puis, la richesse que l'on a, on la consacre surtout à ce qui est commun. Alors, oui, regardez la suite. Regardez ligne 27. Pour l'or, la magnificence et la profusion naissait, parle d'Athènes et de Rome, naissait du fond de la frugalité même. Vous voyez ? Naissait du fond de la frugalité même. C'est-à-dire qu'au fond, on considérait que l'essentiel de la vie, c'était ce qu'on allait, la contribution qu'on allait donner au bien commun. Comme aujourd'hui. Bon. Alors, vous voyez, c'est... Voilà. Alors, donc, vous voyez, à Athènes et à Rome, donc la réduction de la dépense privée rend possible de grandes dépenses publiques. Alors, dans une république également, l'éducation transforme aussi l'ambition en lui faisant changer d'objet. C'est-à-dire que l'ambition ne peut plus être l'ambition personnelle, elle doit devenir l'ambition de servir sa patrie. Mais attention ici, un contresens à éviter. Que tous les citoyens doivent servir la patrie ne signifie pas que tous peuvent et doivent lui rendre des services égaux. En République, l'égalité ne consiste pas à effacer les inégalités de services rendus, les inégalités de talent. D'ailleurs, regardez bien ce que dit Montesquieu, ligne 16 à 18... Ligne 16 à 18, le petit paragraphe là qui est là. Ainsi, les distinctions ils naissent du principe de l'égalité, lors même qu'elle paraît ôtée par des services heureux ou par des talents supérieurs. Alors, ça, c'est un passage qui va inspirer ceux qui vont rédiger l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On retrouve des formules de Montesquieu dans cette fameuse déclaration, en partie en tout cas. Ce que je vous lis par exemple l'article 6, pas en totalité, en partie. Alors voilà ce qui est écrit. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Et c'est ce fameux article 6, si vous voulez, qui a inspiré les concours de la fonction publique. C'est-à-dire que les candidats se présentent et sont sélectionnés en fonction de leurs capacités, de leurs talents, de leurs compétences, et non pas en fonction de leurs relations privilégiées ou personnelles avec un tel ou un tel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde peut postuler, mais seront admis, reçus, ceux qui ont prouvé des compétences. Vous voyez ? Voilà, c'est ça le principe. Donc, vous voyez que l'égalité en République n'a rien à voir avec l'égalitarisme, qui nie aussi bien le talent que le mérite. Alors, le mérite est une notion à prendre avec des pincettes, parce que souvent, on fait passer pour son mérite un héritage. On a eu de la chance. On ne sait pas quelle est vraiment la part qui revient à soi. Donc là, on peut toujours le dire. Mais l'idée, en tout cas, sur le plan juridique, c'est que, là, on ne tient pas compte de l'histoire individuelle des individus. L'égalitarisme consisterait à faire que tout le monde puisse exercer telle ou telle responsabilité sans s'occuper de savoir s'il en a les compétences, vous voyez, par exemple. Donc, vous voyez que l'égalité n'exige pas des citoyens qu'ils se bornent à des compétences égales, mais tout au contraire, elle exige qu'ils puissent développer leurs talents et donner chacun à sa patrie le meilleur de lui-même. C'est ça. Enfin, si je poursuis cette argumentation, ce que va montrer Montesquieu, c'est que l'éducation ne suffit pas. Il ne suffit pas d'élever les citoyens à la vertu. Il faut aussi soutenir la vertu par des lois, par des institutions qui la confortent et évitent sa corruption. Et alors, c'est surtout le livre 5 qui parle de ça. Comme le montre le livre 5, il est nécessaire d'établir des lois qui maintiennent l'égalité des fortunes et évite le développement du luxe. Alors, il ne s'agit pas de dire que toutes les fortunes doivent être strictement égales, mais il faut éviter de trop fortes disparités. Parce que s'il y a de trop fortes disparités, effectivement, l'égalité de statut, elle disparaîtra. Et dans ce livre, donc, je ne vais pas vous étudier toutes les lois qu'il étudie, qu'il examine, mais je vous les signale. Dans ce livre, Montesquieu aborde ainsi d'abord les lois agraires. Les lois agraires qui, dans une république, divisent les terres pour éviter la constitution de grands domaines, accaparés seulement par une petite poignée d'hommes, pendant que tous les autres sont complètement dépendants et n'ont rien. Donc il faut une certaine égalité, donc une certaine répartition des terres, et c'est à cela que s'emploie la loi agraire. Il faut des lois somptuaires qui répriment le luxe, donc le développement des inégalités est beaucoup trop grande. Et il faut des lois de succession qui assurent le partage des richesses. Et ce sont ces lois qu'examine ici Montesquieu. Là, il faudrait avoir du temps pour les lire dans le détail. Alors, mais là encore, ces lois ne suffisent pas. C'est-à-dire que l'éducation et les lois risquent de rester inopérantes si la République ne surveille pas les mœurs des citoyens. Alors évidemment, ce que va dire ici Montesquieu, ça va nous heurter. Ça va nous heurter parce qu'il parle d'abord essentiellement des démocraties antiques. Ce qui se passe à Athènes, ce qui se passe à Rome. Et c'est vrai que nous sommes étrangers à ce genre de mentalité. Alors j'explique d'abord. Au fond, quelle est l'idée ? Et ce que dit Montesquieu est tout à fait fidèle à ce qui se passe dans ces cités. La République ne peut se conserver par la seule force des lois qui garantissent l'existence de la frugalité et de l'égalité. Elle exige, en plus, des institutions chargées de ce que Montesquieu appelle le dépôt des mœurs. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? En d'autres termes, il faut des censeurs. Il faut des gardiens de la vertu. Capables d'exercer une vigilance constante, qui évite à la République sa dégénérescence. Et là, c'est ce qu'il explique dans un chapitre, c'est le chapitre 7 du livre 5, je ne l'ai pas photocopié, hein. Comme l'explique Montesquieu, il faut que des censeurs, comme à Rome, je cite, rétablissent dans la République tout ce qui a été corrompu, qu'ils notent la tiédeur, qu'ils jugent les négligences et corrigent les fautes, comme les lois punissent les crimes. C'est-à-dire, imaginons que je sois ce gardien de la vertu, je vous surveille et je vous adresse des remontrances si je sens un relâchement, quelques négligences. Hein, et comme ça, vous voyez, vous êtes tenu hein, de bien vous comporter. Et donc, au fond, l'idée, c'est que la conservation d'une République, surtout de la démocratie, exige, au fond, l'entretien d'une morale publique. Mais là, pas peur, ils n'ont pas peur de le dire. Hein. Et à Sparte, c'est comme ça que ça se passe. Hein, bien sûr. Sparte ou Lacédémone, hein, c'est la même chose. Donc, une morale publique rigoureuse. Et là encore, je cite un extrait du chapitre 19 du livre 5 de Montesquieu. Je vous le lis. Ce ne sont pas seulement les crimes qui détruisent la vertu, mais encore les négligences, les fautes, une certaine tiédeur dans l'amour de la patrie, des exemples dangereux, des semences de corruption, ce qui ne choque point les lois, mais les élude, ce qui ne les détruit pas, mais les affaiblit. Donc effectivement, il faudrait s'occuper un peu plus des programmes de télévision pour voir s'ils sont tout à fait convenables, s'ils ne prêchent pas un certain relâchement dans les mœurs. Vous voyez, bon, ah oui, bah, c'est la démocratie antique, c'est ça. Hein, bon, il faut le dire. Donc vous voyez que nous avons vu que la vertu est une passion difficile à produire et à maintenir. Alors maintenant, il faut voir comment s'explique sa corruption. Et avec elle, la corruption de la République. Et là, l'idée de Montesquieu, c'est toujours dans le livre 8 hein, qu'il exprime cette idée, c'est que l'histoire agit toujours dans le sens d'un déclin des corps politiques, des gouvernements. C'est-à-dire que l'histoire expose les gouvernements à la corruption. C'est ce qu'il explique dans ce fameux livre 8. Mais alors ici, attention au terme de corruption. Parce qu'il a deux sens, le terme de corruption. Il a un sens moral, celui que vous connaissez ordinairement. Et on pouvait parler, en ce qui concerne du relâchement des mœurs, de corruption morale hein, dans la démocratie. On peut l'entendre dans ce sens. Mais il n'y a pas que ce sens. Il y a un autre sens, très important dans l'analyse de Montesquieu. Quand il parle de la corruption d'un gouvernement, il signifie la décomposition de ce gouvernement, sa dégradation, son dérèglement, au fond, sa destruction. C'est-à-dire que, vous voyez, la corruption, quand il parle de la corruption d'un gouvernement, c'est ça. C'est-à-dire que quand une démocratie se corrompt, c'est pas seulement que les mœurs ne sont plus correctes, mais c'est que simplement, tout simplement, elle est en train de pourrir sur pied. Elle se décompose. Elle est en train de se transformer en autre chose. Et Montesquieu explique ainsi dans le premier chapitre du livre 8, très court chapitre, je vous le lis, « La corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par ses principes. » Je relis, « La corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par ses principes. » Or, comme vous l'aurez compris, la République est d'autant plus fragile qu'elle repose au plus haut point sur son principe, qui est la vertu. La corruption de la vertu entraîne nécessairement la perte de la République. Et le symptôme le plus manifeste de cette corruption, c'est le non-respect des lois. Quand on commence à voir de plus en plus de gens ne pas respecter les lois, à commencer par les gouvernants, hein. C'est par eux que ça commence. Et bien évidemment, ça va très mal. Et là, je vous invite à lire page 1 du texte, le texte qui se trouve ligne 18-20. Ligne 18-20, c'est toujours du principe de la démocratie, ligne 18-20. Et là, vous avez une phrase qui est tout à fait claire. Mais lorsque dans un gouvernement populaire, c'est-à-dire dans une démocratie, les lois ont cessé d'être exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la République, l'État est déjà perdu. Alors, maintenant, si on veut être précis, le risque de corruption est double. Il est double. Il y a deux types de corruption, si vous voulez. La corruption, elle peut se faire de deux manières, plus exactement. La vertu civique peut se perdre soit par excès, soit par défaut. Je m'explique. Par excès, lorsque l'esprit d'égalité devient extrême. On va expliquer. Hein ? Il y a excès lorsque l'esprit d'égalité devient extrême. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il y a corruption de la vertu quand il y a esprit d'inégalité, quand l'esprit d'inégalité supplante l'esprit d'égalité, et quand l'esprit d'inégalité se développe, c'en est fini de la République. Alors on va prendre les deux cas. Premier cas, donc, la vertu se perd par esprit d'égalité extrême. C'est-à-dire lorsque le désir d'égalité devient désir de nivellement et refus de toute hiérarchie. Je vais préciser. Vous voyez, quand le désir d'égalité devient désir de nivellement, refus de toute hiérarchie, eh bien, il y a l'esprit d'égalité devient esprit d'égalité extrême. Or, comme l'explique Montesquieu, l'esprit d'égalité, je cite alors un texte que je ne vous ai pas photocopié, mais je vous le cite, c'est le chapitre 3 du livre 8. Donc, l'esprit d'égalité ne consiste pas, dit Montesquieu, à faire en sorte que tout le monde commande et que personne ne soit commandé, mais à obéir et à commander à ses égaux. D'ailleurs, au fond, ce qu'on appelle l'esprit d'égalité, ce n'est pas autre chose que la vertu. L'esprit d'égalité, c'est la vertu. L'esprit d'égalité exige l'égale soumission des citoyens à la loi. La loi qui seule met chacun à l'abri du caprice des uns ou des autres. Mais cette égalité n'implique aucunement la mise en cause de ceux qui exercent des fonctions de responsabilité et qui ont été d'ailleurs désignés par le peuple. Hein ? Puisque c'est le peuple qui leur a confié ces fonctions. Donc, l'égalité n'implique aucunement la mise en cause de ceux qui exercent une autorité. À l'opposé, l'esprit d'égalité extrême détruit toute forme d'autorité et par là même met les lois en péril en voulant que tous aient tous les pouvoirs et soient en même temps sénateurs, magistrats et juges. C'est-à-dire une république se corrompt lorsque les hommes ne veulent plus seulement être égaux en tant que citoyens, mais aussi, comme le dit Montesquieu, comme magistrat, comme sénateur, comme juge, comme père, comme mari, comme maître. Alors bon, il y a le côté sexiste du texte, hein, parce que là, il est évident que pour un homme du XVIIIe siècle, le mari commande. Hein, bon, ben, c'est clair. Hein, donc c'est vrai qu'il faut le signaler tout de même. Bon, mais vous voyez l'idée. Alors, vous avez cette formule que je vous ai citée. Non, je ne voulais pas photocopier. Hein. Donc, la République se corrompt hein, lorsque les hommes ne veulent plus seulement être égaux en tant que citoyens, mais aussi comme magistrat, comme sénateur, comme juge, comme père, comme mari, comme maître. Chapitre 3, livre 8. Alors, sur ce point, certains peut-être se souviennent, il y a maintenant assez longtemps, de la lecture qu'on avait fait de la République de Platon. Et effectivement, sur ce point, Montesquieu rejoint les analyses de Platon dans le livre 8 de la République, où il traite notamment de la démocratie. Mais d'abord, enfin, voyons clair, Montesquieu et Platon sont totalement opposés quant à l'idée qu'ils se font de la démocratie. Hein. Leurs conceptions sont absolument contraires l'une de l'autre. Pour Platon, la démocratie, ce n'est qu'un régime dégénéré. C'est un régime dégénéré où chacun peut faire ce qu'il veut. C'est un régime où règne la licence. Vous voyez ? Bon, c'est clair, hein, pour lui, c'est un mauvais régime, point. Pour Montesquieu, au contraire, la démocratie, c'est un gouvernement qui repose sur la vertu. Et certainement pas, et qui ne consiste pas dans la licence, hein, bien au contraire. Bon, mais Montesquieu rejoint Platon dans sa description du processus de corruption qui affecte une démocratie. Effectivement, Platon décrit très très bien ce qui se passe quand la démocratie se développe avec la dégénérescence qu'elle entraîne. Et il montre que la corruption, elle commence toujours par les élites. C'est toujours par eux que ça commence. Après, ça affecte le peuple en entier. Elle commence par les gouvernants. Elle affecte ensuite les gouvernés qui sont corrompus à ce moment-là par la démagogie de quelques tribuns, hein, des orateurs qui vont persuader la foule. Et c'est alors, effectivement, que la démocratie risque de déboucher sur la tyrannie. Parce qu'effectivement, ces orateurs, ils vont prendre le pouvoir, ils vont séduire la foule, effectivement, prendre le pouvoir et exercer effectivement le pouvoir personnellement. Et vous avez cette conclusion ici, si vous regardez bien, chapitre 2 du livre 8, regardez, chapitre 2 du livre 8, et là, c'est page 4, je pense, page 4, j'ai souligné le passage, donc c'est derrière le plan. J'ai souligné le passage, voilà. La démocratie a donc deux excès à éviter. L'esprit d'inégalité qui l'amène à l'aristocratie ou au gouvernement d'un seul, monarchie. Et l'esprit d'égalité extrême qui la conduit au despotisme d'un seul. Comme le despotisme d'un seul finit par la conquête. C'est-à-dire que, au fond, l'esprit d'égalité extrême, c'est plus grave. Parce que bon, que l'on débouche sur une aristocratie, ma foi, bon, il y a encore un gouvernement modéré. Mais quand on passe à, évidemment, au despotisme, là, c'est un gouvernement sans loi, où les hommes sont complètement livrés à l'arbitraire d'un homme qui détient le pouvoir. Alors, D'autre part, la vertu se perd également par défaut d'égalité et de frugalité. C'est ce que je viens de vous lire. Lorsque l'esprit d'égalité est supplanté par l'esprit d'inégalité. Et c'est ce qui se produit avec le développement du luxe. C'est ce qui se produit avec le développement du luxe. Et là, je vais vous citer un extrait du chapitre 2 du livre 7, je ne l'ai pas photocopié, qui traite spécialement de la question du luxe. Écoutez bien. À mesure que le luxe s'établit dans une république, l'esprit se tourne vers l'intérêt particulier. À des gens à qui il ne faut rien que le nécessaire, il ne reste à désirer que la gloire de la patrie et la sienne propre. Mais une âme corrompue par le luxe a bien d'autres désirs bientôt. Elle devient ennemie des lois qui la gênent. C'est-à-dire que ceux qui sont avides de richesses, hein, qui sont épris de luxe, ils ne veulent pas de frein à leur initiative. Et les lois, à ce moment-là, apparaissent comme un carcan intolérable qui freine l'initiative individuelle. Et là, je vous renvoie, cette fois, au chapitre 3 du livre 3, c'est-à-dire pas 1. En haut à droite, là, il y a un passage magnifique. Donc page 1, chapitre 3, livre 3. Vous l'avez sous les yeux ? En haut à droite, hein, page 1. Lorsque cette vertu cesse, l'ambition entre dans les cœurs qui peuvent la recevoir. Seulement quelques-uns. Et l'avarice entre dans tous. Les désirs changent d'objet. Ce qu'on aimait, on ne l'aime plus. On était libre avec les lois, on veut être libre contre elles. Je vais un peu plus loin. Ce qui était maxime, c'est règle de conduite, on l'appelle rigueur. Ce qui était règle, on l'appelle gêne. Je vais un peu plus loin. Autrefois, le bien des particuliers faisait le trésor public. Mais pour lors, le trésor public devient le patrimoine des particuliers. La République est une dépouille, et sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous. La décomposition ! Décomposition ! Reste une dernière question. Est-ce que la vertu est encore possible dans les conditions qui sont celles des États modernes ? La question est importante. Les risques de corruption de la vertu sont tels, en effet, qu'on peut se demander si la République, surtout la démocratie, est un gouvernement viable dans l'époque moderne où le commerce se développe, où les inégalités se développent et où les États ont de grands territoires. Alors, pour préserver la vertu, les démocraties antiques étaient contraintes d'adopter deux types de solutions qui nous paraissent aujourd'hui impraticables. D'une part, rappelez-vous, elles devaient exercer une surveillance constante des mœurs. Et puis, d'autre part, elles devaient se tenir dans les limites d'un petit territoire. On avait affaire à des cités démocratiques. Pas à des grands États, à des cités démocratiques. Or, pour Montesquieu, une république ne peut pas exister sur un grand territoire. Une démocratie, surtout, ne peut pas exister sur un grand territoire. Et comme le montre le premier chapitre du livre 9, donc c'est page 4, je ne sais pas si je l'ai photocopié. Non, je ne l'ai pas photocopié. Comme le montre le premier chapitre du livre 9, hop, si, peut-être. Si, je l'ai photocopié. Oui, je l'ai photocopié, oui. Mais on ne lit pas très bien. Eh bien, au fond, Le livre 9, c'est le livre qui est consacré aux relations internationales et aux guerres. Eh bien, comme il le montre, une république est confrontée à un dilemme, à un véritable dilemme. J'expose ce dilemme. Ou elle reste républicaine, en se limitant à un petit État, qui est ainsi comme une grande famille, où les citoyens se connaissent à peu près tous, mais alors, c'est au risque de s'exposer à périr par une force étrangère. Ou, inversement, se renforcer en s'agrandissant, mais c'est courir le risque de perdre son caractère républicain, en corrompant la vertu. Et c'est ce qui est arrivé à la République romaine, comme Montesquieu l'a montré dans ce grand livre que j'ai envie de vous présenter une autre fois, qui s'appelle « Les considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains », écrit en 1734, quelques années avant l'Esprit des lois. Et il faut surtout lire son chapitre 9, où Montesquieu dit la chose suivante au début, « Lorsque la domination de Rome était bornée à l'Italie, la République pouvait facilement subsister. » Seulement le problème, c'est que, comme il va le montrer, la conquête et l'expansion de la République romaine a engendré sa perte. J'aurai l'occasion de reprendre cette question une autre fois, peut-être sous la forme d'une émission de radio. Bon. Mais voyez tout simplement ici ce que Montesquieu écrit sur le sujet dans le livre 8, précisément dans le chapitre 16. Regardez ce qu'il écrit dans le chapitre 16. Le chapitre 16, je vous l'ai photocopié, je crois. Oui, en haut à droite. En haut à droite, page 4. Il est de la nature d'une république qu'elle n'est qu'un petit territoire. Sans cela, elle ne peut guère subsister. Dans une grande république, il y a de grandes fortunes et par conséquent, peu de modération dans les esprits. Et puis, je vais au paragraphe suivant. Dans une grande république, le bien commun est sacrifié à 1000 considérations, il est subordonné à des exceptions, il dépend des accidents, des aléas, de la fortune. Dans une petite république, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen. Les abus y sont moins étendus et par conséquent mieux protégés. Fin de citation. Alors pourquoi la démocratie ne peut-elle pas subsister dans un grand territoire, seulement dans un petit, l'argument est double. D'une part, l'accroissement du territoire augmente les chances de satisfaire ses ambitions et détourne les citoyens de la chose publique. Je vais m'occuper surtout de mes intérêts, puis je vais me désintéresser de la chose publique. Et d'autre part, cet agrandissement rend difficile, voire impossible, le contrôle social. Je vais pouvoir détourner les impôts sans qu'on me voie. Je vais pouvoir me livrer à des magouilles sans qu'on puisse me surveiller. Hein. Voilà ce qui va se passer. Et donc, vous voyez qu'avec la disparition de la surveillance citoyenne, le citoyen disparaît et puis il laisse place à l'individu qui cherche avant tout à satisfaire ses intérêts particuliers à sa guise. Alors, vous voyez que, donc, pour Montesquieu, j'en ai bientôt terminé, la vertu est exclu dans les grands États. Or, pour l'essentiel, les États modernes sont de grands États. Par ailleurs, autre point très important, le développement du commerce entraîne le plus souvent l'accroissement des richesses et des inégalités. Et c'est là une cause supplémentaire qui semble bien exclure la vertu des temps modernes. Alors, certes, il y a eu, et il y a même du temps de Montesquieu, ce qu'il appelle des républiques commerçantes, qui montre que la vertu et le commerce ne sont pas incompatibles. Dans l'Antiquité, c'est l'exemple d'Athènes, de Carthage, de Tyr, de Marseille. Et à l'époque de Montesquieu, c'est celui des républiques de Hollande, de Florence, de Venise, de Genève. Sans oublier l'Angleterre contemporaine, qui, selon la formule de Montesquieu, livre 5, chapitre 19, est une nation où la République se cache sous la forme d'une monarchie. Ce n'est pas une vraie monarchie. Hein, on aura l'occasion de revoir ça. Bon, alors la question c'est, à partir de quand le commerce est-il incompatible avec la vertu ? Eh bien, pour résoudre cette question, Montesquieu distingue dans son livre 20 deux types de commerce. Le commerce d'économie et le commerce de luxe. Le premier, dans le premier, le commerce d'économie, les gains sont mesurés et ils satisfont, je cite, les besoins réels de la nation, car que le commerce d'économie, il est tourné sur les besoins, il est tourné vers les besoins de la population. Ce commerce suppose une certaine égalité des négociants. Il implique une discipline de vie qui engendre la frugalité, à l'opposé de toute vie luxueuse. Toutefois, c'est là le problème, les républiques commerçantes, qui fonctionnent selon le commerce d'économie, sont très fragiles, car elles peuvent très vite glisser du commerce d'économie au commerce de luxe. Et évidemment, le commerce de luxe entraîne des inégalités considérables et stimule une cupidité sans limite. D'ailleurs, en favorisant la corruption des mœurs, le commerce de luxe menace la modernité tout entière. Et c'est lui qui est à l'origine du processus de colonisation dont parle Montesquieu dans le fameux livre 15, où il parle de la traite des nègres et de l'esclavage dans les plantations. Hein, on fait du commerce, pourquoi on va dans les colonies pour obtenir du sucre. Et le sucre, c'est une denrée luxueuse à l'époque. Très important. Bon, en tout cas, c'est désormais à lui que les hommes du XVIIIe siècle doivent surtout faire face. Et c'est ce qui conduit Montesquieu à conclure que désormais, la République est un régime très problématique, en tout cas assez peu viable dans le monde moderne. Et rappelez-vous, un passage que nous avions lu, je ne vais pas vous le rechercher, bon, dans le chapitre 3 du livre 3. Si, il est dans le chapitre 3 du livre 3. Vous verrez, c'est le dernier paragraphe. Donc, chapitre 3 du livre 3, c'est page 1, en bas à gauche. Je vous lis ce passage. On l'avait lu, il vous avait fait sourire. Les politiques grecques qui vivaient dans le gouvernement populaire, donc dans les démocraties, ne reconnaissaient d'autre force qui pût les soutenir que celle de la vertu. Ceux d'aujourd'hui ne nous parlent que de manufacture, de commerce, de finance, de richesse et de luxe même. Je vais ajouter par dérision une start-up. Bon. Oui, bon, effectivement, on est passé à un autre monde. Alors, comme dit Montesquieu, de façon un petit peu ironique, la République est une chose admirable, dit-il. Admirable, certes, mais c'est une chose admirable dont les hommes modernes sont désormais incapables. Et c'est ce qu'il explique dans un chapitre, chapitre 4 du livre 4 sur l'éducation. Je vous lis ce passage. La plupart des peuples anciens vivaient dans des gouvernements qui ont la vertu pour principe. Et lorsqu'elle y était dans la force, on y faisait des choses que nous ne voyons plus aujourd'hui et qui étonnent nos petites âmes. La République est désormais hors de notre portée. La vertu est hors de portée de nos petites âmes. Les petites âmes d'hommes modernes qui n'ont plus d'autre motivation que la satisfaction de leurs intérêts particuliers. Ah oui, c'est pas la grandeur antique. Alors, conclusion. S'il reconnaît que la vertu est le principe sans lequel une république ne peut pas exister, Montesquieu ne fait pas pour autant de la République, le seul régime politique valable. Ça, il faut bien vous en souvenir. Hein, il n'y a pas de modèle pour Montesquieu, hein, puisque, au fond, le meilleur des gouvernements, c'est celui qui s'adapte le mieux à un peuple. Bon. Et il ne place pas la question de la vertu, contrairement à ce qu'on pourrait penser en lisant les premiers livres de l'Esprit des lois, il ne place pas la question de la vertu au centre de son questionnement. C'est ce qu'on pourrait croire. C'est ce qu'on pourrait croire quand on lit les premiers livres de l'Esprit des lois. Mais au fur et à mesure de l'œuvre, on s'aperçoit que Montesquieu marque des distances avec la question de la République et de sa réalisation par la vertu. Comme on l'a vu, il aurait plutôt tendance à penser que la monarchie est un gouvernement plus approprié au temps moderne. Vous vous souvenez ? Et sa réflexion sur le gouvernement despotique et sur le despotisme que je présenterai la prochaine fois. Eh bien, cette réflexion va le conduire à s'éloigner de la conception républicaine de la liberté. La conception républicaine de la liberté, c'est celle qui identifie la liberté à la participation du peuple au pouvoir. Hein ? C'est ça, la liberté au sens républicain. C'est la participation du peuple au pouvoir. Eh bien, il s'écarte de cette définition républicaine et il lui préfère une autre définition de la liberté politique où, cette fois, elle ne consiste pas dans le pouvoir de faire des lois, mais elle est avant tout le sentiment de sécurité dont on jouit quand on est protégé par des lois. Voilà, il va définir la liberté politique dans ce sens-là. Évidemment, on aura à présenter ça, hein, amplement la prochaine fois. La liberté politique, pour Montesquieu, c'est surtout le sentiment de sécurité dont on jouit lorsqu'on est protégé par les lois, lorsqu'on est à l'abri de l'arbitraire. L'arbitraire des autres, mais aussi l'arbitraire du pouvoir. C'est-à-dire, au fond, il va développer une conception de l'état de droit. Il va montrer que là où on se sent libre, là où les hommes peuvent être libres, c'est dans un état de droit dans lequel il y a, alors, ce qu'on appelle une séparation des pouvoirs, mais le terme est impropre, je vous expliquerai pourquoi, mais un état où il n'y a pas de pouvoir absolu. Il ne peut pas y avoir, surtout pas, de pouvoir absolu. Monarchie ou république, peu importe, à la limite. Pourvu qu'on ne tombe pas dans le pire des gouvernements, qui est le gouvernement despotique, lequel consiste dans l'exercice arbitraire du pouvoir. Le gouvernement despotique, rappelez-vous, c'est un gouvernement sans loi, où le despote agit arbitrairement. Et dès lors, à partir de là, la préoccupation essentielle de Montesquieu, c'est de réfléchir aux conditions qui seules garantissent la liberté politique des citoyens, au sens où il a entendu, et leur permettent d'échapper à l'arbitraire. Et ici, quand il va parler du despotisme, il ne parlera pas seulement du gouvernement despotique. Par despotisme, il entendra aussi la tendance qui guette tous les gouvernements modérés. Tendance dans laquelle il risque de tomber s'il ne pose pas des limites à l'exercice du pouvoir. Vous voyez ? Le despotisme, c'est ce que Montesquieu, à ce moment-là, va appeler l'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, il peut avoir lieu dans un gouvernement modéré, qui peut dégénérer. Donc il ne suffit pas ici, par exemple, que les gouvernants d'une république soient vertueux, hein, pour éviter l'abus de pouvoir. Comme le dira Montesquieu, livre 11, chapitre 4, je le cite, « Qui le dirait ? La vertu même a besoin de limites. » C'est-à-dire, sans une constitution qui distribue dans des mains différentes la puissance législatrice, la puissance exécutrice, la puissance judiciaire, eh bien, même le plus vertueux des gouvernants d'une république risque d'attenter à la liberté des citoyens en pensant agir pour la bonne cause. Vous voyez ? Non, la vertu n'offre pas de limite. Il importe donc surtout à Montesquieu de protéger la liberté des citoyens par la construction d'un véritable état de droit, ce que lui, il appelle un gouvernement modéré, où les citoyens soient non seulement à l'abri de l'arbitraire de leurs concitoyens, mais aussi à l'abri de l'arbitraire du pouvoir. Le despotisme, c'est une tendance qui guette tous les gouvernements modérés. Et si on n'y prend garde, c'est-à-dire si on laisse les pouvoirs être concentrés dans les mains d'un seul, là, on est dans le despotisme. Dès lors, la question de la vertu passe au second plan. Alors évidemment, si Montesquieu définissait comme les anciens la liberté en termes de participation du peuple au pouvoir politique, la vertu aurait une place centrale. Elle aurait une place centrale. Parce que, évidemment, selon cette conception de la liberté, cette conception de la liberté requiert la vertu pour la réaliser collectivement. Mais désormais, vous voyez que Montesquieu change d'optique. La liberté politique, c'est avant tout la sûreté dont jouit les citoyens, dont jouit le citoyen. C'est l'antidote de la crainte, si vous voulez. Et il ne peut pas y avoir de sûreté là où s'exerce un pouvoir absolu, quel que soit d'ailleurs son détenteur, que ce soit un homme, une assemblée ou un peuple. Alors il y a un homme politique qui, à sa manière, prolonge la réflexion lors de la Révolution française de Montesquieu sur la vertu et tire d'ailleurs de ses analyses des conclusions politiques. Cet homme politique, c'est Robespierre. Ça peut vous étonner, et notamment dans un discours qui a été prononcé le 6 février 1794, où il reprend, mais presque terme à terme, les analyses de Montesquieu sur la démocratie. Je vous l'ai envoyé par Internet. Mais évidemment, Robespierre ne s'intéresse pas aux considérations de Montesquieu sur la nécessité de limiter le pouvoir, de distribuer les pouvoirs dans des mains distinctes. Non. Et contrairement à Montesquieu, il prétend établir la République et instaurer la vertu dans le contexte inédit d'un grand État moderne avec la Révolution française. C'est-à-dire, évidemment, il compte réaliser une République en France, qui est un grand État. Donc, pour lui, la grandeur du territoire n'est pas un obstacle rédhibitoire. Le problème majeur qu'il faut résoudre, et c'est à ça que lui sert la réflexion de Montesquieu, c'est celui qui consiste à combattre la corruption morale des gouvernants, leur défaut de vertu. Et comme Montesquieu l'avait très bien vu, eh bien la corruption ne commence pas par le peuple, mais par l'élite, par les magistrats. Les magistrats, ceux à qui le peuple a confié des responsabilités, risquent toujours de se détourner du bien public. D'où la nécessité de protéger le peuple contre ses traîtres, contre ses usurpateurs, et de mettre en pratique une politique de la terreur au service de la vertu. Et comme la vertu ne peut pas se suffire à elle-même, il faut lui associer la crainte, qui normalement est réservée au despotisme, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, puisqu'il s'agit ainsi de parvenir à dompter par la terreur les ennemis de la liberté et de mener de cette façon le combat de la liberté contre la tyrannie. Vous connaissez son propos. Donc vous voyez qu'ici, c'est assez amusant, Robespierre, ce sont des grands lecteurs des philosophes, des révolutionnaires, Robespierre s'inspire des analyses de Montesquieu, mais comme vous l'aurez compris, il s'en écarte radicalement dans les conséquences qu'il en tire. Alors, prochaine séance, nous parlerons du gouvernement despotique, du despotisme et des conditions qui permettent de l'éviter et de garantir la liberté politique. Donc, la prochaine fois. Voilà, et j'arrête là. Désolé, c'est encore une fois. Alors, à vos questions. Oui.
Machiavel, tout à fait.
Ah oui. Alors, c'est un. Machiavel est une référence. Et le texte de Machiavel, le plus important, n'est pas, comme on le pense, le prince, mais le discours sur la décade de Tite, le premier discours sur la décade de Tite, qui d'ailleurs parle de Rome et de la République romaine. Et je pense que, là, j'ai le texte de Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, il faudrait les confronter. Alors, on aura mieux l'occasion de montrer les liens de parenté entre Machiavel et Montesquieu quand nous allons la prochaine fois étudier la Constitution d'Angleterre, quand il montre comment elle est composée. C'est-à-dire que pour Montesquieu, la politique, c'est une question de rapport de force.
Oui, c'est ça. Il ne parle pas de conflit.
Le conflit est une bonne chose. La démocratie n'est jamais apaisée.
Montesquieu.
Ni Montesquieu ni Machiavel. C'est-à-dire une démocratie apaisée, c'est qu'elle est avachie. Elle s'est effondrée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vitalité. Le peuple agit par passion. Donc, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des empoignades, à partir du moment où il y a des règles qui subsistent, etc., qui permettent d'ailleurs ces empoignades, c'est une bonne chose. C'est ça, la vitalité d'une démocratie. Démocratie, c'est le conflit.
D'accord. On en parle plus tard, en fait,
ça. Il en parlera plus tard, déjà, mais j'en avais déjà parlé la dernière fois. D'une certaine façon, quand j'ai dit au début, par exemple, vous vous souvenez, je vous ai dit que quand il parle de la démocratie, il montre que le peuple agit par passion et qu'il a besoin d'exprimer ses passions. Et donc, à partir du moment où il va exprimer ses passions, forcément, il y aura un peu de castagne, un peu d'opposition, voilà. Et c'est bien que ça se passe ainsi. Ça veut dire qu'il se sent concerné, qu'il est mobilisé. Qui n'est pas indifférent. Et donc, effectivement, la politique, c'est une affaire de passion. Donc, elle doit prendre en charge ses passions. Par contre, quand on les refoule totalement, et quand on prétend gouverner au nom de la sagesse en faisant taire systématiquement le peuple, là, on n'est plus dans une démocratie. On est dans autre chose. Oui, Machiavel et Montesquieu, oui. Ce sont deux grands lecteurs des historiens latins. C'est truffé de références à Clive, à Tacite, qui sont d'ailleurs des auteurs qu'on devrait lire, même d'un point de vue philosophique, pas seulement littéraire, à mon avis. Tacite, Tite-Live, tous les historiens, Salluste, Suétone, ils connaissent ça, ils vous lisent le latin. Hein, bon. Alors, par contre, Montesquieu cite moins, mais peut-être qu'il, je ne sais pas s'il connaissait le grec, je ne pense pas. Et il cite beaucoup moins les auteurs grecs. Il cite un historien latin qui s'appelle Polybe, qui est important. Mais c'était des latins qui connaissaient le grec. Enfin, voilà. Oui.
J'avais une question. Le peuple, il aime les lois. Et le peuple, c'est son responsable des lois. Et puis, plus tard, on a parlé des gardiens de la vertu.
Oui.
Et on a dit qu'on pouvait justifier même la terreur. Au service de la République, on va dire.
Je n'ai pas dit ça comme ça exactement. Ça ne s'est pas enchaîné exactement comme
ça. Non, mais du coup, si je mets tout ça ensemble, ça fait penser un petit peu à la délation, dénonciation. Et je vais demander quelle était la vie des Montesquieu.
Bonne question. Ce qui est vrai, c'est que quand il parle de la démocratie, il parle surtout de la démocratie antique. Ayez toujours à l'esprit Sparte. Mais il n'y a pas que Sparte, il y a la République commerçante d'Athènes. Enfin bon, disons qu'il a plusieurs références. Mais disons la plus caricaturale, c'est Sparte. Où là, effectivement, il règne un état d'esprit assez lourd. Hein. et où il y a une sorte de surveillance mutuelle des citoyens les uns par les autres. Et un climat de délation, c'est possible, tout à fait. Alors là, il ne parle pas de délation, il parle d'un censeur qui corrige les mauvaises tendances, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des délations organisées. Hein. Bon. Mais tout de même, c'est vrai que, selon lui, dans la mesure où une république ne tient que par la vertu, donc par des mœurs tout de même exemplaires, ça implique une forme de contrôle moral. Hein, c'est pas la conception que nous avons, nous, de la démocratie moderne. C'est-à-dire que nous aimerions concilier à la fois un petit peu ce que dit Montesquieu de la démocratie, mais sans l'aspect effectivement coercitif, quoi. Mais Montesquieu va se moquer hein, de cette... En fait, Montesquieu est assez ironique. Et on l'a lu souvent un peu à contresens. C'est-à-dire qu'on a cru qu'il faisait au départ l'éloge systématique de la démocratie antique, de la vertu, etc. En fait, quand on lit bien certains passages, il s'en moque. Il fait par exemple une comparaison entre la cité de Sparte, une cité démocratique, hein, dans le sens exact du terme, avec la... comment dirais-je, avec le gouvernement despotique chinois. Il fait une comparaison. Enfin, on aura l'occasion de voir ça aussi. Et pour montrer que, sur le papier, c'est différent, mais il y a quand même des points communs dans les mentalités, dans la façon de vivre. Hein. Il y a des rapprochements, tout de même, quelque part.
Ou même dans les passages, j'avais déjà fait la comparaison avec la religion.
Là,
il a fait la comparaison avec la religion aussi, à deux passages que nous avons lus.
La religion, le...
Oui, avec les moines.
Ah oui, avec les moines. Oui, tout à fait. C'est un peu ironique, oui.
Oui.
Ah, tout à fait. C'est-à-dire que, au fond, cette république vertueuse, c'est une république assez guerrière aussi, hein, souvent. Et c'est vrai que ce qui a fait au départ la force de la République romaine, c'était justement cette espèce de forte unité qu'il y avait entre les citoyens, qui étaient égaux, qui avaient tous intérêt à faire la guerre pour agrandir le patrimoine de Rome, effectivement, qui étaient de redoutables guerriers, effectivement, qui s'entraînaient constamment. Il y avait une rigueur à la fois militaire et morale considérable, qui a fait la force de Rome pendant très longtemps, qui lui permettait de combattre de façon absolument incroyable contre ses ennemis. Mais évidemment, ça ne tient debout que parce que, d'une certaine façon, Rome était encore petite. Mais à partir du moment où elle s'est agrandie, elle s'est enrichie, elle a conquis d'autres territoires, ça a commencé à se déliter. Et les citoyens ont perdu le sens de la République. Ils se sont de plus en plus occupés de leur propre patrimoine. Vous voyez ? Alors bon, ça, c'est ce qui montre remarquablement bien, hein. C'est vrai que la force de ces républiques-là, elle tient à une certaine homogénéité des mœurs hein, qui caractérisent les cités, hein, ces cités-là, et que c'est plus viable, ça. C'est plus tout à fait viable. C'est vrai. Non, il y a un problème. Alors, est-ce que la solution... La République, je vous ai parlé de la monarchie anglaise, qui est en fait une république déguisée en monarchie. Est-ce que c'est pas ça la solution ? Une république tout de même qui s'écarte considérablement, en tout cas de la démocratie. Parce que, effectivement, Montesquieu, vous savez bien, il y a deux courants, je vais simplifier, je l'ai dit la dernière fois, il y a deux courants. De pensées qui vont, de philosophes qui vont mobiliser les révolutionnaires français. Pour simplifier, schématiser grossièrement, il y a Montesquieu, première phase de la Révolution, c'est-à-dire, au fond, une monarchie constitutionnelle, hein, et Montesquieu qui a inspiré d'ailleurs aussi comment dirait les fédéralistes américains, hein, qui a beaucoup inspiré les Américains, hein. Vraiment beaucoup. Bon, alors, et ça c'est la première phase de la Révolution française, mais à partir du moment où la Révolution devient beaucoup plus l'affaire du peuple, bah c'est Rousseau qui va devenir plutôt la référence dominante. Et Montesquieu, effectivement, n'est plus dans le coup, d'une certaine façon. Parce que chez Montesquieu, il y a tout de même, oui, une méfiance de la démocratie, à l'égard de la démocratie. Hein, le peuple, hein, vous savez, le peuple animé par des passions, c'est bien, c'est important, c'est très important, mais il ne faut pas qu'il exerce directement le pouvoir. Il faut des mécanismes qui empêchent, voyez, un exercice direct de la démocratie. Et c'est pour ça que la délégation de pouvoir ne lui suffira pas. C'est pour ça qu'il sera partisan de la représentation, d'un mécanisme de représentation.
Qu'on retrouve aux
États-Unis, absolument. Les fédéralistes sont pour, lisent Montesquieu. Et puis qu'on retrouve aussi au début de la Révolution française, l'abbé Sieyès, qui est un des premiers penseurs de la Révolution, enfin un acteur, un député, bah, il est pour ça. La représentation évite que le peuple s'exprime directement, vous voyez. Ça fait tampon, en quelque sorte. Hein. Étant entendu que le représentant n'est pas obligé, selon cette conception, de porter les aspirations du peuple. Vous voyez. Alors que, ce que je disais la dernière fois, pour un philosophe comme Rousseau, un député, ce n'est pas un représentant, c'est un commissaire du peuple. Il est mandaté par le peuple. Il a un mandat impératif. Et il est révoqué s'il ne respecte pas son mandat. Notre conception, vous voyez. Et évidemment, Rousseau se heurte à la question de la taille du territoire. Alors lui, il a pensé, conçu un système qui, justement, permet de surmonter cette difficulté. On va élire des députés, mais des députés qui seront mandatés pour exprimer, effectivement, la volonté du peuple. Alors voilà, ça, vous voyez, ce qui est intéressant. Et ce qui est vraiment frappant, moi, ce qui me frappe, c'est quand vous lisez donc, les révolutionnaires français, mais ils reprennent des phrases entières de Montesquieu, etc. Ils ont lu, ils ont médité, ils ont réfléchi à tout ça. Hein. C'est vraiment...
Mais le pouvoir judiciaire est constitutionnel, puisque
oui.
Montesquieu lui donne un pouvoir de contrôle.
Alors, judiciaire, il s'occupe de juger seulement dans le registre du droit pénal. Mais pas de contrôle sur... pas de contrôle sur... Non. En fait, mais là, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais disons que le pouvoir judiciaire n'est pas un pouvoir. C'est le juge, et il exécute la loi. Mais ce qui est très important pour Montesquieu, c'est qu'il faut qu'il soit indépendant. C'est la seule puissance qui doit être vraiment indépendante. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être l'exécutant du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. Sinon, il n'y a pas d'indépendance. Et s'il n'y a pas d'indépendance du juge, eh bien, je dirais la présomption d'innocence n'a plus aucun sens. Hein, puisque Montesquieu, c'est le penseur de la présomption d'innocence. Enfin, toute sa réflexion en matière de justice pénale est fondamentale. Bon, donc ça, c'est très important. Par contre, les deux autres pouvoirs, législatif et exécutif, il n'a jamais dit qu'il fallait qu'ils soient séparés. Il a dit exactement qu'il fallait qu'ils soient dans des mains distinctes. Mais ils ne peuvent pas être séparés, sinon ils ne pourraient pas s'opposer. Ils sont imbriqués, de telle sorte, les uns dans les autres, qu'ils se font contrepoids. C'est ça que va montrer Montesquieu. C'est-à-dire que c'est comme dans un mécanisme d'horlogerie, si vous voulez, avec des poids et des contrepoids. Hein, c'est ça toujours l'image qui domine. Mais ce n'est pas une séparation, au sens où chaque pouvoir serait complètement séparé des autres, donc ça, on ne voit pas comment ils pourraient interagir.
Check and balance.
Voilà, exactement. C'est du Montesquieu.
Mais Montesquieu ne pense pas à un pouvoir constitutionnel.
Un pouvoir au-dessus, une juridiction. Non. Non. Ça, c'est chez Tocqueville, chez les Américains. Non. La justice suprême, quoi. Hein? Non, ça, non. C'est pas envisagé. Par contre, il est le penseur de cette notion de constitution, qui est un dispositif pour. Qui permet non pas de séparer les pouvoirs, mais de les distribuer dans des mains distinctes. Vous voyez, l'expression la plus juste, c'est dire distribution dans des mains distinctes. Mais là où la seule fois où il parle de séparation, c'est pour le pouvoir judiciaire. Là, c'est vraiment important. Et évidemment, cette distribution des pouvoirs était possible dans un gouvernement despotique. Hein, vous voyez, alors, dans un gouvernement monarchique, il n'y a pas de séparation entre. Enfin, bien souvent, en tout cas dans le gouvernement monarchique français, il n'y a pas de séparation entre législatif et exécutif. Donc, qu'est-ce qui fait que le gouvernement monarchique n'est pas un gouvernement despotique ? Eh bien, ce sont les parlements, ce sont les corps intermédiaires qui vont adresser des remontrances au roi. Qui vont en quelque sorte servir de force de résistance. Et le clergé aussi, à sa façon. Donc c'est ça qui est essentiel pour Montesquieu. C'est à ça qu'il est attaché, évidemment. Et étant entendu que la monarchie française, depuis Louis XIII, c'est-à-dire Richelieu, et puis ensuite, Mazarin ou Richelieu, quel est le premier, le deuxième, je ne sais plus, historiquement dans l'ordre. Enfin, ces gens-là ont complètement modifié le paysage de la France, puisqu'ils ont renforcé le pouvoir central. Ils ont renforcé le pouvoir du roi, quoi. Ils ont diminué le rôle de la noblesse, évidemment, surtout Louis XIV, qui a... après l'épisode de la Fronde, fait tout ce qu'il pouvait pour que les nobles deviennent des courtisans qui puissent avoir à l'œil, quoi, qui puissent surveiller. Et ça, c'est la tendance despotique de Louis XIV qui combat. Oui ?
Mais si la vertu est une passion, peut-on encore l'enseigner ? C'est-à-dire, peut-on enseigner une passion ?
On n'enseigne pas. On éduque. Attention, ne confondez pas éducation et enseignement.
Ça se transmet plus par imprégnation.
Par pratique, par éducation. Alors, c'est une question.
Ça n'est pas gagné.
Voilà. Comment on s'appelle ? Montesquieu n'est pas Condorcet. Il n'y a pas de réflexion développée sur l'instruction, sur l'acquisition des connaissances, etc. Ça, vous aurez ça avec Condorcet, les mémoires sur l'instruction publique plus tard. Non, là, c'est l'éducation. L'éducation au sens des mœurs. Hein. On éduque des mœurs, tant que des façons d'être, de vivre. Alors, ça doit, vu certaines formules de Montesquieu, impliquer une forme d'apprentissage des connaissances, certainement. Mais il ne développe pas ce point-là. Hein, il ne développe pas. C'est-à-dire que la vertu, c'est surtout, c'est surtout une disposition, un sentiment. C'est un sentiment. Donc, mais c'est un sentiment que l'on acquiert par un processus d'éducation. Donc l'exemple, l'imprégnation, le sens de l'intérêt général.
Qu'il faut attiser,
oui. Et qui forcément développe, exige une réflexion à un certain niveau sur. Sur ce que doivent être les lois, etc. Mais Montesquieu n'en parle pas de ça. Ce qu'il veut surtout montrer, c'est que c'est la passion démocratique. Elle concerne tout le monde, du plus haut au plus bas. C'est-à-dire qu'une démocratie n'est viable que parce que tous les hommes, gouvernants comme gouvernés, ont l'amour des lois. C'est ça, moteur. Donc là-dessus, il n'y a pas d'hierarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Parce que si vous envisagez la question en termes de connaissances, forcément, vous allez introduire une hiérarchie. Il y a ceux qui en savent plus que d'autres. Vous voyez ? Et c'est vrai, de fait, il y en a qui en savent plus que d'autres. C'est-à-dire, ce sont ces hommes-là que les citoyens désignent comme responsables de telle ou telle chose.
Et une fois que cette passion s'est perdue, c'est difficile de la
retrouver. Ah ben, oui. Ou alors, il faut la régénérer. Voilà. Je suis là pour ça.
Très bien, on s'arrête là.
Voilà, on va s'arrêter là.
Merci. C'est la fin de Kennedy.
Ah, Kennedy, ah oui.